J'ai plaqué mon chêne comme un saligo, mon copain le chêne, mon alter ego. J'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée, tous de bonnes graines, de haute futée.
Palabre en forêt, l'émission Lozéro-Gardoise qui dévoile et décrypte l'actualité de nos forêts et de la filière bois,
les initiatives locales
et les actions d'ici et d'ailleurs sur la forêt.
Rendez-vous un mardi sur deux à 11h
et un vendredi sur deux à 9h
sur Radio Bartas
107 FM.
Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter des yeux.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, vous êtes toujours sur Radio Bartas et nous nous retrouvons avec Virginie pour une nouvelle émission de Palabre en forêt. Bonjour Virginie.
Bonjour Lucille.
Et aujourd'hui nous allons vous parler d'une formation universitaire avec Bruno Clerc qui est avec nous. Donc Bruno Clerc est directeur de recherche au CNRS et c'est également le co-responsable du master Sciences du bois à l'université de Montpellier. Donc c'est une toute nouvelle formation qui approche la discipline forestière ou des sciences du bois sous de nouveaux angles. Bonjour Bruno Clerc.
Bonjour. Bien. Merci de nous recevoir.
Merci à vous d'être là avec nous. On va commencer par une première question. Est-ce que vous pouvez d'abord nous parler un petit peu de vous, de quel est votre métier initialement?
Alors moi je suis donc chercheur au CNRS, c'est-à-dire que ma mission c'est de faire avancer la connaissance et moi mon thème de recherche c'est la mécanique de l'arbre et du bois. Je m'intéresse à comment les arbres tiennent debout, c'est-à-dire se maintiennent la leurs branches et leurs troncs érigés vers le ciel pour intercepter la lumière et les conséquences de cette croissance de l'arbre sur les propriétés du matériau bois qu'on utilise comme utilisateur.
Passionnant. Et vous êtes également, du coup, depuis cette année, le co-responsable du Master Sciences du bois. Et en quoi consistent vos missions au sein de cette formation?
Alors, oui, il y a presque deux ans, on s'est lancé dans cette aventure là de monter une formation en sciences du bois sur Montpellier. Ma mission, ça a été d'abord de réunir les acteurs. Donc déjà, je travaille sur ce projet avec Sandrine Bardet, qui est maître de conférence à l'Université de Montpellier. Et ensemble, on a entrepris ce chantier. Donc la première étape, c'était de réunir les différents acteurs qui allaient pouvoir intervenir. Et on s'est rendu compte qu'en fait sur Montpellier il y avait des grandes forces des fois qui se connaissaient pas entre elles de chercheurs en foresterie, en sciences du bois, en chimie du bois, etc. Et aujourd'hui on est une cinquantaine de collègues d'équipes pédagogiques issus de 12 laboratoires de recherche du site Montpellier. Donc ça a permis de fédérer tout ce groupe.
D'accord, donc c'est une formation, cette formation c'est une grande première, hein, on l'a dit, la première rentrée a eu lieu cette année. Quelle discipline le master propose-t-il d'aborder et pourquoi c'est une nouveauté? Quel était le besoin fondamental qui liait un petit peu tout ça?
Alors, le choix qu'on a fait de positionnement, c'est d'être à la croisée de tous les chemins de la filière bois, c'est-à-dire de s'intéresser de l'arbre depuis sa croissance dans la forêt, comment fonctionne l'arbre, etc., comment il fabrique son bois, et ensuite d'aller décliner l'ensemble de ses usages, depuis les usages matériaux, bois d'œuvre dans la construction, jusqu'aux extractions de molécules et à la valorisation énergétique, et de placer tout ça dans un contexte des grands enjeux globaux. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui que la place du bois dans nos vies va devenir de plus en plus importante pour des questions de recyclabilité, de stockage du carbone, etc. Et donc c'était important que les étudiants soient bien sensibilisés et une bonne compréhension de ces grands enjeux globaux. Et in fine, on reboucle la boucle de ces grands enjeux aussi sur comment rendre compatible une filière bois durable, c'est-à-dire tant sur les aspects forestiers, où on voit bien que si on veut promouvoir un maximum d'usage du bois et de matériaux biosourcés, eh bien ça va avoir un impact sur les forêts. Donc comment arriver à avoir une gestion des forêts qui soit compatible et durable? Et donc ça, c'est d'une part voilà, avoir une vision durable du fonctionnement de la forêt en tant qu'approvisionnement en bois, et d'autre part sur les nouveaux matériaux, matériaux innovants que vont pouvoir proposer les étudiants dans leur vie professionnelle. Jusqu'à quel point c'est des matériaux durables aussi. On voit dans la chimie du bois, on voit dans les composites que des fois il y a des matériaux qui sont plus du tout durables avec des composites qui seront impossibles à biodégrader par exemple. Et donc c'est important d'avoir cette réflexion de développement durable de la filière d'un bout à l'autre.
Et donc vous nous l'avez dit, vous êtes directeur de recherche au CNRS et vous êtes particulièrement investi dans cette formation. Pourquoi vous avez choisi de vous impliquer justement dans la création de cette nouvelle formation ?
Alors, c'est un mélange de plein de choses. C'était déjà un besoin national et local très fort. Et une envie de réunir des acteurs. Au niveau national, on a deux écoles d'ingénieurs qui proposent des formations, donc Bac plus 5 sur le matériau bois, Nantes et à Épinal. Il y a une formation sur Nancy aussi en master qui propose avec une formule légèrement différente. Et ça nous semblait intéressant de proposer sur Montpellier donc quelque chose comme ça de très interdisciplinaire couvrant l'ensemble de la filière. Et puis c'était un défi aussi localement de fédérer toutes ces forces de recherche sur le matériau bois.
Et je vais vous trahir un petit peu. Vous m'avez avoué tout à l'heure que vous-même, vous auriez aimé suivre cette formation.
On a fait des choix forts. Alors, grâce au soutien, on a été très soutenu par ce qu'on appelle un UCIT et un MUS, c'est-à-dire, enfin, en gros, par l'université nous a beaucoup soutenu dans cette création de formation et ça nous a permis d'être très ambitieux. Et du coup, on a des beaux moyens pour attaquer cette formation, et ça permet de faire une formation de très belle qualité, avec beaucoup d'intervenants, avec des aspects pratiques. Les étudiants font des sorties sur le terrain, rencontrent les acteurs, ont des conférences toutes les semaines. Nous avons pu équiper la formation d'un atelier bois où les étudiants vont pouvoir travailler eux-mêmes le bois. Formés par des professionnels. Tous ces aspects qui rendent la formation assez unique en son genre. Et puis elle s'appuie sur, je vous disais, une cinquantaine d'enseignants-chercheurs et chercheurs passionnés et ravis de communiquer leur passion pour le bois depuis les botanistes, les mécaniciens du bois, les chimistes, enfin toutes disciplines confondues. On a eu un vrai engouement de l'équipe enseignante sur ce projet-là et ça fait vraiment une proposition géniale pour les jeunes.
Et la rentrée s'est bien passée alors ?
Alors la rentrée s'est bien passée, ouais, on est parti dès la rentrée, on est parti sur le terrain une semaine au Vigan. Et là on a pu rencontrer tous les acteurs finalement qui composent cette filière bois, donc l'ONF pour la forêt publique, le CNPRS pour la forêt privée. On a pu rencontrer des élus dans leurs problématiques de gestion de communes. On a pu visiter à la fois la grande scierie assez industrielle du Vigan, mais aussi un petit scieur mobile, rencontrer des propriétaires forestiers, rencontrer des artisans qui travaillent ce matériau in fine. Donc c'était un grand moment de partage, de rencontre pour les étudiants et de découverte de cette filière dans toute sa complexité, hein, parce qu'on voit bien que tous les acteurs ne sont pas sur les mêmes points de vue et c'est ça aussi qui est intéressant de partager.
Oui, c'est enrichissant. Et combien y a-t-il d'élèves pour cette promotion ?
On a 19 étudiants cette année.
Voilà. C'est la capacité maximale d'accueil de cette formation ?
La capacité était à 20 et puis on a reçu 70 candidatures qu'on n'a pas retenu tout le monde et ça nous semblait, voilà, on est arrivé sur 19 étudiants in fine.
Et est-ce qu'il y a des prérequis alors pour accéder à cette formation ?
Alors, les prérequis, on accueille des biologistes, qu'on fait donc de la biologie végétale, des chimistes qui s'intéressent aux vivants, des physiciens, des mécaniciens, des jeunes qui ont suivi des filières tournées vers le bois, de la foresterie ou de la construction bois par exemple. Et puis ensuite, on a toujours dit, et puis on l'a fait cette année, là, qu'on est ouvert aussi à des profils plus atypiques. un économiste, un sociologue, un historien. Là, par exemple, cette année, on a une géographe là, qui a fait de l'aménagement du territoire et qui s'intéresse à la filière. On a des personnes en reconversion professionnelle qui ont des parcours assez divers, mais où on sentait dans la motivation et dans les capacités d'apprentissage une belle opportunité de les former pour compléter, parce qu'on voit bien que la filière bois, c'est tous ces besoins-là aussi, quoi.
Et donc, on est sur une formation diplômante, c'est reconnu par l'État.
Absolument, oui. Ouais. C'est une mention qui a été reconnue par l'État. On est le seul master à porter ce nom, sciences du bois, sciences avec un S, hein, pour monter toute l'interdisciplinarité de ces sciences autour du bois. Et donc, c'est un bac plus 5 master qui permet de rentrer dans la vie professionnelle ou de continuer en doctorat, parce qu'on s'attend à ce qu'un certain nombre de nos étudiants poursuivent en doctorat.
D'accord.
Et comment peut-on faire alors pour s'inscrire, pour faire partie de la prochaine promotion ?
Alors, pour faire partie de la prochaine promotion, il faut aller sur le site internet du master, vous cherchez Master Bois Montpellier, vous trouverez sans difficulté. Il y a toutes les indications. En gros, alors je n'ai pas les dates exactes, hein, mais c'est à partir du mois de avril, mai, là, par là, en avril, hein, qu'il va y avoir, on pourra déposer les candidatures. On fait le choix, je vous l'ai dit, hein, d'avoir des étudiants qui sont avant tout motivés par ce projet de formation. Donc c'est pas juste un CV qu'on dépose, mais il y a un petit questionnaire là pour voir un petit peu quelles sont les motivations des étudiants et leurs projets professionnels autour du bois. C'est autour de ça qu'on sélectionne les candidats, et puis on les sélectionne aussi en fonction de l'hétérogénéité qu'on souhaite dans le groupe. Hein. On veut pas avoir que des biologistes ou que des chimistes pour une promo, donc on va sélectionner pour avoir de la diversité entre les étudiants, parce que c'est aussi cette diversité qui participe à la formation.
Très bien. Et donc vous parlez de projet professionnel, justement, quel métier peut-on exercer à l'issue de ce master ?
Alors, en gros, on va aller vers tous les métiers de cadre de la filière forêt-bois, et nous on met un accent particulier sur tout ce qui est recherche et innovation, donc recherche dans l'entreprise ou recherche dans les organismes de recherche ou à l'université, et donc avec la possibilité de poursuivre en thèse pour ceux qui veulent, pour poursuivre un doctorat en partenariat avec une entreprise grâce à des dispositifs tels que le dispositif CIFRE ou thèse dans des laboratoires de recherche. Et le master est associé à de nombreux laboratoires de recherche à Montpellier, mais aussi au niveau national. On est dans un groupement de recherche qui comprend l'ensemble des laboratoires de recherche qui s'intéressent au bois depuis sa fabrication dans l'arbre jusque dans la diversité de ses usages. Et c'est tout ça les débouchés du master. Et puis un débouché qu'on n'attendait pas et puis finalement qui s'avère assez porteur, c'est toutes les collectivités locales et territoriales, les communes forestières par exemple, qui ont montré un vif intérêt autour de cette formation, qui sont en recherche de personnes formées sur cette filière dans sa globalité, comprendre ce que c'est que ce massif forestier, comment fonctionnent les arbres et comment on peut avoir une valeur économique à l'usage de ces arbres. Voilà, un autre débouché.
Merci Bruno Clair. On finit avec la fameuse question qu'on pose à tous nos invités. Est-ce que vous avez un petit mot, donc bois peut-être cette fois-ci, ou forestier ?
Un petit mot bois ou forestier ? J'avoue que j'ai pas réfléchi à la question. J'avais envie de dire, on fait feu de tout bois. Il y a toujours quelque chose à faire pour peu qu'on soit motivé et qu'on s'en donne les moyens. J'ai l'impression que la filière bois est porteuse de plein d'espoir et que il y a qu'à relever les manches. Les acteurs sont là et il y a vraiment de belles choses à faire dans la filière. Et nous, on le voit avec nos jeunes, mais on le voit aussi avec tous les professionnels et les collègues qui se motivent autour de ce projet.
Merci Bruno Clair.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Merci, au revoir.
Et nous rejoignons l'Afrique avec Sona Djobarté et sa chanson Djarabi.
Thank you. The song right here is called Jarabi. And it's a song about love. How do you say love in this language here? One person, let me hear. Lift her. Lift her up. Lift her up. It makes women feel lift up. Yeah, lift her. It's lift her, huh? It's good. So it's a song about lift her. Jarabi, let's sing it together, all right? We you, Jarabi. We you.
Et on vous retrouve sur Radio Partas 107 FM dans l'émission Palabre en forêt. Et nous accueillons Émeric Sulmont. Bonjour.
Bonjour.
Toujours garde-moniteur au Parc National des Cévennes. Et aujourd'hui, vous allez nous parler de...
D'un arbre fruitier.
D'accord.
Qu'on appelle le cormier.
Le cormier.
Ou le sorbier domestique.
Très bien.
Alors, le sorbier domestique, ça ressemble énormément, pour ceux qui connaissent, au sorbier des oiseleurs. Le sorbier des oiseleurs, c'est plus courant sur les sommets de Lozère. Où c'est un arbre qui fait des fruits rouges très, très éclatants à l'automne. Là, c'est assez magnifique. Avec des feuilles qui ressemblent un peu aux frênes, si vous voulez, mais avec des dents. Et le sorbier des domestiques ressemble tout à fait à ça. Mmh. Sauf qu'il pousse plutôt sur terrain calcaire. Contrairement au sorbier des oiseleurs, qui est plutôt sur granit ou schiste. Et en altitude. Le sorbier domestique, lui, c'est plutôt la périphérie sud des Cévennes, pour ce qu'on pourrait appeler le piémont calcaire cévenol, et plus rarement, beaucoup plus rarement sur les causses. Et c'est un arbre qui est intéressant parce qu'il fait des fruits qui ressemblent à des petites poires, qu'on appelle des cormes. Et ces cormes, on les appelle aussi des poirillons, parce que justement, ça ressemble à des petites poires. Et évidemment, comme tout fruit, les Alsaciens les ont distillés et en ont fait un alcool. Un schnapps.
Son commentaire.
Sauf que, à propos de cette boisson qui est tirée des cormes du cormier, j'ai trouvé une petite anecdote que j'ai trop envie de vous lire parce qu'elle est assez intéressante sur ce qu'on fait de ces fruits quand on les... Voilà, je vous la sors. C'est toujours tiré de Cazin, 1868. C'est un traité pratique et raisonné des plantes médicinales indigènes. Et il raconte « On fait avec ces fruits mûrs, mais non ramollis, une sorte de boisson analogue au cidre. » Il suffit de les mettre dans un tonneau rempli d'eau à moitié ou au tiers et de les laisser fermenter pendant quelques jours. On laisse le tonneau déboucher et lorsque la fermentation tumultueuse a cessé, on le ferme avec la bonde. Au bout de 10 jours, la liqueur d'un coup acidulée est potable. Bu avec modération, elle n'est pas nuisible. Voilà, je ne sais pas si c'est une incitation à faire une boisson avec ses cormes, mais en tout cas, voilà, ce n'est pas très potable et non nuisible. On a fait mieux comme descriptif. Et autre propriété des fruits, c'est comme les prunelles, les fruits. Si vous les croquez dans la bouche, ça vous donne une sensation de sécheresse. On appelle ça très astringent, vous savez, c'est âpre.
Ouais. Donc c'est pas très bon.
Ouais, voilà. Ben non, cru c'est pas bon. Il faut attendre qu'il soit blette.
D'accord.
Mais sa astringence, donc c'est la propriété en fait de refermer les tissus, elle a été utilisée apparemment pour enlever les rides, faire un anti-ride. Et c'est, donc oh là, il y a un petit mot que je trouve assez remarquable aussi à propos de ça. L'astringence des fruits du sorbier domestique est si prononcée avant leur maturité qu'ils resserrent les lèvres lorsqu'on les goûte. On s'est quelquefois servi de leur décoction pour réparer les outrages du temps ou pour effacer les traces d'une première faiblesse.
Tu nous parles du nouveau Botox.
C'est assez joli, hein. Bon, sinon, j'ai pas trop insisté sur la description de l'arbre. Hein. C'est pas un arbre très gros. Et comme il est adapté au climat sec, donc c'est un arbre d'avenir finalement. Et qui est plutôt, qui s'insère plutôt dans le début d'une histoire forestière, c'est-à-dire voilà quand une forêt se crée, c'est plutôt des broussailles, des ronciers, des églantiers, et lui s'insère dans cette phase dynamique de début d'histoire forestière. Et ensuite, il va rester dans cette forêt s'il y a des trouées, exactement comme le merisier en fait,
en
sous-étage, ou dès qu'il y a une clairière qui s'ouvre après un gros chêne qui tombe, voilà, il va s'installer là. Et qu'est-ce qu'on peut dire en d'autres? Oui, ben, si, il est assez répandu en fait dans toute l'Europe du Sud, et il a beaucoup progressé avec les Romains. Finalement, c'est les Romains qui l'ont cultivé et qui l'ont introduit un petit peu partout en Europe. Et en fait, il pousse beaucoup mieux dans le nord de l'Europe et dans le centre de l'Europe. Et les plus gros cormiers du monde sont en Slovaquie.
Ah oui.
Et ils font 5 mètres de circonférence, ça doit faire 1,50 m de diamètre, c'est énorme. Alors qu'en Cévennes et dans la région méditerranéenne, s'ils atteignent 30 cm, c'est déjà énorme.
Et on sait pourquoi les Romains le cultivaient alors ?
Eh bien, notamment pour les fruits, ils étaient comme les Alsaciens, ils devaient aimer boire des choses. Et puis, probablement pour ça. Le bois après est très intéressant. Il a une qualité, c'est un bois extrêmement dense, il est plus dense que le chêne, il parle de 900 km³, alors que le chêne, si ça atteint 700-800, c'est déjà pas mal, mais là c'est beaucoup plus lourd et dense que le chêne, et du coup ça donne des propriétés mécaniques intéressantes. On peut l'utiliser dans des dents d'engrenage, je vous donne des vis de pressoir. Dans des rabots, dans des crosses de fusil, des mécanismes de piano, en marqueterie, manche de couteau, et puis évidemment faire de la gravure sur bois. Pour l'imprimerie, par exemple. Ça, c'est toutes les propriétés de ce bois. Voilà un peu pour le sorbier domestique. Je change complètement, je saute du coq à l'âne. Mais comme c'est l'automne, c'est l'arrivée de l'automne, je peux pas ne pas vous parler de champignons.
Et bien sûr.
Mais je vais pas vous parler de cèpes et de girolles. En ce moment, ça y est, ça sort. Il y a des gens qui courent après tout ça. J'avais envie de vous parler d'un champignon, certes comestible, mais qui est plus méconnu et que peu de gens osent consommer, parce qu'il faut bien le connaître, évidemment, comme tous les champignons. C'est un champignon qu'on appelle le polypore soufré. Et le polypore soufré, les anglo-saxons l'appellent le chicken of the wood, c'est-à-dire le poulet, le poulet des bois, tout simplement parce qu'il a une consistance et un goût, mais qui rappelle à s'y méprendre, le poulet. Et la première fois que j'en ai consommé, c'est une amie qui me l'avait cuisiné sous forme de nuggets.
Ah oui.
Elle m'a fait des nuggets de polypore soufré et j'avais cru manger du poulet. C'est vraiment
incroyable.
Excellent. Ouais. Et donc ce champignon, il est relativement facile à trouver si on a une belle vieille châtaigneraie ou une belle vieille chênaie, parce que c'est un peu ces deux arbres privilégiés. Il peut aussi pousser sur vieux robiniers, mais les vieux robiniers, on en trouve moins souvent, enfin, robinier ou acacia. Et il a donc c'est un polypore, ça ressemble à les polypores, ça ressemble à des appliques murales, vous voyez?
Oui.
Sauf que c'est très plate, voilà, ou des demi-secoupes volantes qui seraient encastrées dans un arbre, voilà. Ouais. Et ça fait plusieurs étages comme ça, donc c'est toute une série de secoupes volantes encastrées dans un arbre, jaune, soufre. Et ça, c'est au tout début de la saison. Alors, c'est finalement, quand il est jaune soufre, c'est un indicateur qu'il est consommable. Puis après, très vite, il va blanchir, mais devenir complètement blanc crème. Et là, il est un peu moins goûtu. Il est moins consommable, mais il est encore bon, mais il garde sa consistance de poulet. Ça, c'est un critère. Vous prenez le champignon dans les mains, vous avez l'impression de casser un blanc poulet. Voilà, donc à chercher sur des vieux arbres, parce que c'est quand même un champignon parasite, qui est, on dit, un champignon de faiblesse d'arbre, qui peut vivre assez longtemps finalement avec l'arbre, mais qui petit à petit, lui, il consomme la cellulose de l'arbre, il finit par déstructurer et donc l'arbre peut finir par s'écrouler à force.
Comme beaucoup de polypores, non ?
Oui, les polypores sont souvent des arbres de faiblesse qui s'occupent de manger et de manger le bois mort de l'arbre,
de décomposer,
restituer au sol finalement le bois. Et je lisais des trucs intéressants sur ce champignon, il a été utilisé comme dépolluant du bois. Alors c'est assez curieux parce qu'il y a des bois qui sont traités qui peuvent être pollués en arsenic. Il y a plein de produits qu'on utilise pour avoir des bois qui sont imputrescibles. Mmh. Et quand on broie ces résidus de bois pollués et qu'on cultive ce champignon dessus, eh ben ce polypore a la propriété d'extraire notamment l'arsenic, mais quasiment à des proportions de quasiment entre 80 et 100%. Donc c'est un excellent dépolluant. Ouais. Mais quand on dit qu'il est excellent dépolluant, ça veut dire aussi que quand on le consomme, on peut aussi il concentre les métaux. Donc ça veut dire qu'on ramasse pas ces champignons n'importe où. Ah. Et typiquement, voilà, les bords de route ou les endroits pollués, bah, c'est pas des endroits où on ramasse les champignons. Mmh. Parce que globalement, les champignons ont assez cette faculté de concentrer les polluants. Faut pas faire
ou la radioactivité,
les radons, la radioactivité, etc. Ouais. Ouais. Voilà, voilà. Donc c'est la période, là, fin d'été, courant d'automne, pour trouver ce champignon.
Et quelle taille il a ?
Alors ça peut être des petits, souvent entre 5, 10, 20, 30 cm et 40 de diamètre.
C'est variable.
Sur des hauteurs, ça fait vraiment plein d'étages à la fois. D'accord. Et cette couleur jaune souffle sur un bois fatigué, sur de gros diamètres en général, des châtaigniers de 50, au moins de 50 cm, parfois sur souche aussi. Oh, il passe pas inaperçu. Je sais que par exemple au milieu de Pont de Montvert, il y en avait un sur un robinier de la place de Pont de Montvert. Mais c'est pas là que je l'aurais ramassé parce que là, il est poussé dans le goudron, c'est pas génial.
Goudron, ouais. Radon.
Non. Voilà pour la petite chronique champignon. Et voilà.
Et tous à vos châtaigneries, à vos chênes.
Voilà.
Merci Émeric Sulman.
À bientôt.
À bientôt.
Et c'est ainsi que notre émission de Palabre en forêt s'achève aujourd'hui. Merci Virginie.
Merci Lucille.
Et on vous laisse en très bonne compagnie avec Radio Partas 107FM.
J'ai plaqué mon chêne comme un saligo, mon copain le chêne, mon alter ego. J'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée, tous de bonnes graines, de hautes futaies.
Palabre en forêt,
l'émission Lozéro-Gardoise
qui dévoile et décrypte
l'actualité de nos forêts et de la filière bois,
les initiatives locales
et les actions d'ici et d'ailleurs sur la forêt.
Rendez-vous un mardi sur deux à 11h
et un vendredi sur deux à 9h
sur Radio Bartas
107FM.
Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux.